Guimard-Roche est heureuse de vous retrouver, chers auditeurs. L'écho de ma commune est une émission subventionnée par le Conseil Général d'Eure-et-Loire, que je remercie. Dans notre studio aujourd'hui, je reçois Alain Fillon, maire de Luret, vice-président de la communauté d'agglomération pour l'eau et l'assainissement. Alain, merci. Monsieur le maire, merci d'être là et d'avoir accepté de revenir dans nos studios.
Merci de m'y accueillir.
C'est
également
très sympathique.
Je me retrouve toujours ici avec beaucoup de plaisir.
Bon, l'ambiance est bonne alors.
Tout à fait.
Alors je voudrais d'abord, pour commencer cette émission, si tu le veux bien, que tu nous parles de la situation actuelle.
À la situation actuelle, je pense au niveau national, c'est évidemment avec beaucoup de tristesse et d'émotion que je l'aborde ici dans les studios de Radio Grand Ciel. D'abord, je voudrais témoigner de mon émotion et aussi de ma solidarité envers les familles qui ont dû pâtir de décès, de blessés. Aujourd'hui, il reste encore de nombreux blessés, au-delà des 130 victimes qui ont été atteintes durant ces attentats meurtriers. Le président de la République a évoqué pour une des premières fois le terme de guerre. Je crois qu'effectivement, notre pays aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur et du côté très brutal de ces attentats, je crois qu'effectivement notre pays est en état de guerre. Je crains que malheureusement il soit encore pour un temps assez long. J'ai noté aussi l'unité nationale, qui m'a beaucoup ému aussi. Je crois que toute la classe politique, au-delà bien sûr de la population, mais toute la classe politique a su gommer un certain nombre de choses l'espace du temps de montrer cette unité. Et puis aussi, cette unité, elle s'est faite à travers des valeurs de la République qui, depuis un certain nombre d'années, me paraissaient mises beaucoup trop dans l'ombre. Je parle en particulier à ce qui symbolise notre République, la France, à travers la Marseillaise. Je préfère que nous entonnions tous cet hymne national plutôt que de l'entendre siffler parfois dans des endroits qui sont des endroits sportifs. Et puis aussi le rassemblement derrière le drapeau. Je me souviens quand j'étais jeune élu, mais même jeune tout court, il y a donc de nombreuses années. Je me souviens que dans mon village, à Luret, comme dans beaucoup de villages de France, au moment des commémorations du 8 mai, du 11 novembre, les habitants mettaient leur drapeau à la porte. Et puis ça s'est perdu tout doucement.
C'est vrai, je l'ai vu.
Oui, il y a une trentaine d'années, lorsque j'étais élu maire, je l'ai fait, nous le faisions, un certain nombre. Le nombre était plus limité, puis tout doucement, ça s'est éteint. Je crois que là, le fait d'avoir ressorti ce drapeau, de l'avoir mis au fronton de ma maison, il y avait une émotion. Une émotion pas forcément facile à contenir, mais je crois que malheureusement, c'est à travers ces actes odieux que l'on arrive à montrer notre unité. On pourrait la montrer dans d'autres circonstances au-delà de celle-ci.
J'avais été frappée, nous avons voyagé aux États-Unis, en Californie précisément, juste après les attentats du 11 septembre, et j'avais été complètement effarée. D'abord par l'accueil que nous avions reçu, parce que les Américains étaient extrêmement touchés que des Français viennent chez eux. Il y avait des tas de problèmes avec les transports et tout ça. Mais aussi, j'avais été tout à fait étonnée de voir tant de drapeaux. Il y avait des drapeaux américains partout, y compris sur les petits landaus des bébés, les poussettes, les colliers des chiens. Tout le monde, c'était une marée incroyable de drapeaux. Alors, on m'avait expliqué à l'époque que c'est vrai que les États-Unis étaient un peuple beaucoup plus jeune que nous et que c'était leur attachement au drapeau venait peut-être de là. Mais finalement, en France, ce drapeau tricolore, c'est 1800 et des poussières.
Oui, c'est même avant l'union des trois couleurs. Hein. Des trois couleurs, c'est la période post-révolutionnaire. Ce que je voudrais aussi ajouter, Alors, est-ce que c'est un signe des temps? Et c'était avant le 13 novembre, puisque c'était le 11 novembre. C'était le 11 novembre, dans ma commune, nous avons l'habitude, bien évidemment, comme d'autres communes, de célébrer cette fin de la Première Guerre mondiale. Et depuis 35 ou 40 ans, les enfants des écoles n'étaient pas venus chanter la Marseillaise au Monument aux Morts. Et ça s'est fait cette année. Est-ce que c'était un signe? En tout cas, c'est un signe de plus. Je préfère que cette unité, que ce chant de la Marseillaise ait pu se faire en dehors des difficultés, ou tout au moins des actes odieux qui ont été commis. Mais en tout cas, c'était quelque chose pour nous de très positif. La population y a été très sensible. Ce qui veut dire que, quelque part, moi, je reste persuadé que les Français, au-delà de nos communes, les Français savent se retrouver dans les moments importants. Mais ça pourrait être dans des moments importants sans qu'il y ait malheureusement des morts à l'appui.
Bien sûr, tu parlais de guerre. Il n'y a pas que toi d'ailleurs qui parle de guerre actuellement. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression quand même que c'est beaucoup plus général, beaucoup plus étendu que sur notre propre sol? On parle d'une troisième guerre mondiale. Est-ce que ça n'est pas ça la réalité?
C'est plus étendu parce que, là encore, ça a été souvent dans l'histoire du monde. Les conflits ont été des conflits à la base religieux. Et là, je pense que c'est au-delà de la religion, parce que c'est même de la religion à travers le fanatisme. Parce que, probablement, que même dans cette religion qu'est l'islam, je pense qu'on ne lit pas dans le Coran un certain nombre de choses qui sont véhiculées et qui sont soutenues par ces groupes extrémistes.
Mais lisent-ils le Coran en réalité?
Voilà, moi je pense que le Coran ne doit pas aller forcément aussi loin, c'est autre chose, c'est une domination, et à travers ça, l'endoctrinement et malheureusement qui conduisent à des actes que l'on ne peut que reprouver. Certainement que ça ne se limite pas à notre pays, à la France. La France a été visée pour un certain nombre de raisons, probablement notre engagement sur les conflits Syrie, Irak, etc. D'un autre côté, peut-on laisser faire aussi sur ces territoires-là la persécution d'autres personnes qui ont le tort de ne pas pratiquer la même religion? Alors je crois que chaque religion a le droit d'être pratiquée, bien évidemment.
En liberté.
En liberté, avec le fait que ça n'entraîne pas de conflit, avec le respect, bien sûr, de chacun. Mais là, on voit bien que pour une religion, pour certains qui pratiquent, comme tu dis, ou qui ne pratiquent pas la religion, parce qu'on peut se poser la question, l'islam, là, je crois qu'on va beaucoup plus loin. Alors je crois qu'il faut que l'on résiste, c'est important que l'on monte notre unité nationale, mais bien au-delà de l'Europe et du monde. Je crois qu'à l'occasion de la COP21, qui a permis de recevoir à Paris bon nombre, près de 150 chefs d'État, la plupart de ces chefs d'État sont allés se recueillir sur les lieux où il y a eu des massacres. Et je crois que c'est important. Parce que ça veut dire qu'au niveau mondial, on a bien pris, je l'espère, la mesure de la difficulté et de la menace générale.
À partir du moment où d'autres peuples se sentent menacés, il est évident que peut-être les choses vont progresser.
On peut l'espérer. Ensuite, c'est très compliqué parce que, je répète, cet état de guerre... À travers des représailles, des bombardements, etc., c'est une chose. Aller au sol, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il y a eu dans l'histoire aussi des situations. Souvenons-nous de l'Indochine pour la France, souvenons-nous du Vietnam pour la France et pour les Américains. Et on s'est aperçu que bien souvent...
L'Afghanistan aussi.
L'Afghanistan, c'était des guerres d'enlisement et qui n'ont pas conduit...
Et l'Irak.
Voilà. Donc, voilà, je crois qu'il faut prendre la mesure. Il faut être très prudent. Il faut que les mesures qui ont été prises, je crois, globalement, qui ont été saluées, au-delà des différences politiques, notamment l'état d'urgence. Je crois que l'état d'urgence devait être instauré, il sera probablement prolongé. Il y a un certain nombre de choses, il faut que nous soyons très prudents. Je m'étonne, mais c'est souvent comme cela, je m'étonne que des voix aujourd'hui s'élèvent, c'est vrai, pour faire en sorte que, de bien vérifier que nos libertés, que des garanties de liberté ne soient pas annihilées au nom de l'état d'urgence, mais ne poussons pas quand même le bouchon à l'extrême, les mesures qui doivent être prises, même à la limite. Si nous avions un certain nombre de nos libertés contrôlées, j'ai pas dit supprimées, la liberté, une des libertés principales dans notre pays, qui est la liberté de circuler, moi je crains pas du tout d'être durant mes déplacements, être contrôlé régulièrement en différents endroits, même mes déplacements à pied, même etc., dès l'instant où on n'a rien à se reprocher.
Tu parlais des opposants à cet état d'urgence. C'est vrai que la Ligue des droits de l'homme en particulier s'oppose en effet à quelques mesures qui sont prises dans le cadre de cet état d'urgence.
On est en état de guerre. C'est quelque chose de nouveau par rapport sur notre territoire. Je crois qu'il ne faut pas le nier. Hein. C'est vraiment des actes de guerre qui ont été commis, en plus d'une manière très lâche. Hein. Donc, à l'état de guerre, il faut instaurer un état particulier. Mais un état particulier qui garantit, j'en suis d'accord, un certain nombre de nos libertés, même si elles sont un petit peu écornées dès l'instant où elles restent quand même nos libertés. Je n'ai pas l'impression aujourd'hui qu'à travers l'état d'urgence, il y ait une difficulté pour continuer à nous déplacer, à nous exprimer. Et donc, je crois que là, je compte sur le positionnement de nos dirigeants pour faire en sorte que les équilibres puissent être respectés.
Ça peut être prolongé combien de temps, un état d'urgence de cette sorte ?
3 mois, normalement.
Encore trois mois après cela.
Après, je pense qu'il doit y avoir passage par probablement une autorisation institutionnelle. Ça doit passer, je pense, à la Chambre, enfin aux différents parlements, notamment.
Sinon, évidemment, il y a à craindre la fin de cet état d'urgence et la reprise de troubles importants.
Moi, j'évoquais régulièrement, et je l'ai fait là, le jour du 11 novembre, puisque nous en profitons pour réunir tous les anciens de notre village à travers un déjeuner. Et j'avais souvent l'habitude, et je l'ai dit là cette année encore, que je remerciais en fait ces générations qui ont connu des guerres. Et de les avoir remerciés pour s'être battus, pour certains, d'avoir résisté, pour d'autres, et faire en sorte, en fin de compte, que nos générations, après la Deuxième Guerre mondiale, n'aient jamais connu sur le territoire français, n'aient jamais connu de conflit. C'est depuis peu, ce n'est plus une vérité. Ce n'est plus une vérité parce que là, depuis ces attentats, eh bien, il est clair que c'est des actes de guerre qui ont été déclarés à la France.
Barbelés fait surtout peur. Si je vois des gens, le premier oiseau d'un après-guerre sur un fil de fer qui s'ébarbe m'en veut surtout pas.
Merci Alain de t'être exprimé sur ce sujet. Et nous revenons maintenant, non pas à nos moutons, mais à nos villages. T'as plus de moutons dans l'Uray, bien sûr.
Non, il n'y a plus de moutons. Il n'y a même plus d'autres animaux. C'est quelque chose qui a disparu, à part les chiens, des chats, mais des moutons, des animaux de ferme, il n'y en a plus. Il reste encore juste une seule ferme sur la commune de l'Uray, alors qu'il y a, un demi-siècle, il y en avait six.
Je me souviens de la ferme des Debuts, mais...
Voilà, mais c'est un monde, le monde agricole change comme le monde en général change.
Oui, ça change beaucoup d'ailleurs. Je sais que, en particulier, le maire de Serville me disait l'autre jour, elle me disait que, en fait, la plupart des jeunes agriculteurs avaient deux métiers. Ils étaient obligés, en plus de l'exploitation de leurs terres, d'être, j'en connais un qui est chauffeur de poids lourd, c'est vraiment courageux. Hein. Comme tu dis, l'agriculture change.
C'est courageux et c'est bien souvent une obligation, parce que pour ceux qui ont des surfaces, qui exploitent des surfaces assez limitées, aujourd'hui c'est vrai que c'est plus compliqué de vivre uniquement de l'exploitation agricole.
Alors ton village, les manifestations festives pour cette fin d'année.
Pour cette fin d'année, les manifestations sont nombreuses en décembre. On a deux rendez-vous importants, le traditionnel marché de Noël. Ce marché de Noël.
Est-ce qu'il y aura des santons?
Oui, il y aura plein de choses.
Super.
On organise toujours le marché de Noël à l'Uray le dernier dimanche précédant Noël. Sauf à ce que ce dimanche soit le 24 décembre, la veille tout juste de Noël. Mais on a déjà fait des marchés de Noël trois jours avant Noël même. Le principe de base, c'est de dire, voilà, si je viens au marché de Noël à l'Uray, je suis certaine de pouvoir acheter tout ce dont je peux avoir besoin pour le jour de Noël. Ça va des petits cartons que l'on mettra sur la table à chaque invité, aux bougies, à éventuellement constituer la crèche, les santons, enfin un certain nombre de choses, l'alimentaire également, les cadeaux. Donc voilà, on va le dire bien souvent, les achats se font pas les derniers jours, mais il y a même beaucoup de gens, de plus en plus, qui le font pour différentes raisons d'ailleurs, et notamment aussi pour des raisons économiques. Et donc, en venant au marché de Noël le 20 décembre, vous êtes certaine de trouver tout ce dont vous aurez besoin.
Un choix immense.
et avec, c'est annoncé, je crois, que le Père Noël sera présent tout au long de la journée.
Oh, très bonne nouvelle, bien sûr. Et donc après, la soirée de réveillon.
Alors ensuite, il y a une tradition aussi à l'Uray, il y a l'organisation du réveillon de la Saint-Sylvestre, donc le 31 décembre, où là, je crois que c'est malheureusement déjà complet pour les réservations.
Mais malheureusement, c'est très bien,
enfin,
ça.
Malheureusement pour ceux qui n'ont pas encore choisi qui pourraient souhaiter.
Et ça se passe où?
Alors ça se passe à la salle des fêtes de l'Uray. C'est organisé par un traiteur sous l'égide d'une association qui est le comité des fêtes. Donc voilà, ça se passe très bien. Et puis il y aura, on évoque la fin de l'année, le début de l'autre, les prémices de l'autre, qui commence en général toujours par la première manifestation qui est la présentation des vœux du maire à toute la commune et puis aussi à toute la commune et au-delà. Donc ce seront les vœux du maire de l'Uray.
C'est très apprécié.
Oui, qui auront lieu, ces vœux auront lieu le jeudi 7 janvier. Toujours à la salle des fêtes.
Et apprécié non pas seulement par tes administrés, mais par des tas d'autres gens qui viennent et qui font connaissance un petit peu, ou alors des nouveaux arrivants aussi.
Oui, c'est ça, entre
ça
autres.
Ça leur permet de regarder un petit peu ce qui se passe dans cette belle commune.
Le fil conducteur étant que nous invitons à titre plus personnel, avec carton d'invitation, toutes les personnes qui, de près ou de loin, participent à la vie communale. Alors on invite nos amis de Radio Grand Ciel, puisque vous participez bien évidemment...
Je serai là.
À la vie, voilà, il y aura un carton d'invitation bien sûr, à la vie communale, parce que le fait de m'accueillir régulièrement pour venir parler de la commune de Luré, c'est aussi participer à la vie.
Mais c'est tout à fait normal, parce que la commune de Luré, aide Radio Grand Ciel, et c'est aussi bien sûr très apprécié.
Tout à fait normal. C'est une position que j'avais adoptée dès que j'avais été élu maire avec les collègues du premier conseil municipal, c'est que nous avions l'intention de soutenir les radios locales. Voilà, parce que une radio locale a dans le paysage de la communication, de l'information, a toute sa place. Il y a de moins en moins de nos concitoyens qui lisent la presse écrite. On le voit bien à travers la presse nationale ou la presse locale, et donc qui, par contre, ont régulièrement leur poste de radio branché sur une des radios locales. Et donc, les radios locales ont une mission, elles ont des missions qui est la vôtre, hein, vous diffusez sur tout le département, mais vous savez aussi venir nous inviter à nous rencontrer pour parler de nos communes, de nos villages, de nos difficultés, mais aussi de nos bonheurs d'exercer notre fonction.
Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue, où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil, mon Dieu, quel sourire à la vie, mon Dieu, merci d'être ici. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les fleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ses gens, tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais, je suis un petit français, rien qu'un enfant, tout simplement.
On parlera plus tard des difficultés dans une autre émission.
Tout à fait.
Aujourd'hui, on garde que le bonheur. Et d'ailleurs, vous pouvez écouter, chers auditeurs, vous le savez très bien sans doute, sur Internet, sur le site de radiograndciel.fr. Nous avons aussi un site Facebook qui est très, très fréquenté. Et vous pouvez écouter toutes nos émissions sur Internet. Alors, j'allais dire dans le monde entier, mais pourquoi pas ? Alain, je te remercie infiniment d'être venu. Ça m'a fait plaisir de te revoir d'abord, et puis ensuite d'avoir toute cette conversation. J'allais dire à bâton rompu, mais c'est presque ça. Et c'est vraiment très, très sympathique de ta part de faire le déplacement, non pas de très loin, parce que Luré n'est pas très loin de Dreux, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous te recevons, et merci infiniment.
Le plaisir est partagé.
Chers auditeurs, au revoir, à bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel. Au revoir. Pierre Écart était à la technique et le montage de cette émission sera assuré par Émilie Glory. Au revoir.